Alors aujourd'hui, nous parlons du livre des Nombres. La dernière fois, on a fait le Lévitique. On continue la lecture. Genèse, Exode, Lévitique, Nombres. Quatrième livre du Pentateuque. On l'appelle le livre des Nombres précisément parce qu'il commence par un recensement de la population. Donc on a toute une série de nombres qui sont là. On retrouvera un recensement un peu plus loin. Le recensement de la seconde génération du peuple dans le désert. Alors ça, c'est le nombre, c'est le nom en français du livre, qui est le même en latin, qui est le même en grec. En fait, en hébreu, je vous avais dit, pour les livres du Pentateuque, on utilise simplement des mots de la première, du premier verset. Et donc, en hébreu, on appelle ça Bemidbar, donc dans le désert. Parce que, et je trouve que le titre est sympa aussi, peut-être même plus sympa que nombre, parce que le livre des nombres, on ne sait pas forcément ce que ça désigne, alors que quand on dit dans le désert, on comprend bien de quoi il s'agit. Il s'agit de parler des pérégrinations du peuple d'Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'arrivée en terre promise. Alors vous allez me dire, c'est déjà le cas du livre de l'Exode, par exemple. Bon, pas tout à fait, puisque l'Exode, ça commence en Égypte. Et c'est seulement dans la deuxième moitié du livre de l'Exode, dans la deuxième partie du livre de l'Exode, que le peuple est sorti d'Égypte et s'apprête. Et effectivement, on avait tout un tas de textes législatifs qui occupaient une bonne partie de l'Exode. On pose les fondements de ce peuple d'Israël et de son alliance avec son Dieu. Le livre de Lévitique, de la même manière, contenait un certain nombre de régulations propres au fonctionnement religieux, c'est pour ça qu'on l'appelait Lévitique. Le livre des Nombres, lui, est éclectique. On va avoir certains aspects qui sont législatifs, sacerdotaux. On va parler des fêtes religieuses, on va donner des consignes, etc. Et puis d'autres éléments qui sont, pour le coup, narratifs, des épisodes, des anecdotes, etc. etc. Et on va avoir une sorte d'alternance, un melting pot, un petit peu tout ça, qui finalement est à l'image de ce peuple qui est dans le désert. Alors il y a des éléments qui sont déjà connus, on va retrouver des législations sur les fêtes, et on dit mais on les a déjà vues, parfois on les a déjà vues une fois, des fois on les a déjà vues deux fois, donc on a l'impression que c'est un petit peu redondant. Au sein même du livre des Nombres, vous retrouverez parfois la même chose, qui est dite à deux reprises. Alors en fait, il y a des raisons à cela. Par exemple, au sein même du livre des Nombres, on va basculer de la première à la deuxième génération. C'est le livre des Nombres, c'est là que s'effectue quand même le point de bascule entre la première et la deuxième génération des Israélites. La première génération, c'est celle qui quitte l'Égypte avec Moïse et qui est censée traverser le désert et entrer en terre promise. Ça prend pas très longtemps, traverser le désert. En voiture, c'est quelques heures. À pied, un peu plus longtemps, bien sûr, mais ça prend pas des années. Mais ce qui va se passer, le point de bascule, va se faire au chapitre 13 et 14. On va y revenir. Lorsque les espions qui vont en terre promise reviennent et donnent majoritairement un avis négatif, qui fait suite de toute façon à un certain nombre de récits de rébellion et d'obstination du peuple, finalement Dieu va dire, puisque c'est comme ça, vous allez tous mourir dans le désert. Vous voulez rester dans le désert, vous y mourrez. Et alors le livre s'appelle « Dans le désert », Bemidbar. En hébreu, le titre du livre, c'est ça. Et donc ça se passe dans le désert, et c'est la génération qui traverse le désert et qui meurt dans le désert. Et on dit finalement, c'est la deuxième génération, ce sont vos enfants, qui, eux, hériteront la terre promise. Donc on va avoir, à partir du chapitre 26, on va avoir la deuxième génération. Donc si vous voulez décomposer le livre, grosso modo, en deux parties, c'est assez pratique. Deux parties inégales, cela dit, vous allez avoir, parce qu'il y avait 36 chapitres, vous allez avoir les 25 premiers chapitres qui concernent la première génération, et à partir du chapitre 26 jusqu'au chapitre 36, vous allez avoir les 10 derniers chapitres qui concernent la seconde génération. En réalité, le point de bascule s'opère, je disais, dès les chapitres 13-14, où c'est là qu'on apprend que la génération va mourir dans le désert. Et donc, dans la deuxième partie, à la fin, vous allez retrouver des choses qu'on a déjà vues auparavant, mais c'est normal puisqu'on les explique à la seconde génération. Il faut tout recommencer, j'allais dire, il faut reprendre depuis le début. Donc voilà, grosso modo, pour la structure globale du livre des Nombres. On va le parcourir ensemble pendant l'heure qui suit. Alors, les 10 premiers chapitres concernent des préparatifs pour justement la marche dans le désert. Comment on va s'organiser? Il faut s'organiser. On commence par estimer la population et on se dit, bon, très bien, nous sommes le nombre que nous sommes et nous devons traverser le désert. Ça ne se fait pas facilement quand on a une grosse population comme ça. Au chapitre 1er, vous avez donc le dénombrement. Verset 2, faites le dénombrement de toute la communauté. C'est pour ça qu'on appelle ça le livre des nombres. Et il y a une raison à cela, c'est parce qu'en fait le dénombrement permettra d'une part de savoir de combien de personnes il faut s'occuper, et puis également, on y reviendra au chapitre 26, quand il y aura un deuxième dénombrement, où là on expliquera que le nombre pour chaque tribu va indiquer la taille du territoire à fournir. Une tribu nombreuse a besoin de plus d'espace qu'une tribu moins nombreuse. Donc pour chacun des 12 fils de Jacob, je rappelle que Jacob est devenu Israël et que ses 12 fils sont devenus les ancêtres de 12 tribus, ça c'est dans le récit biblique, eh bien on va vous donner le nombre des hommes, on s'intéresse aux hommes adultes, c'est-à-dire âgés de 20 ans et plus. C'est intéressant parce que 20 ans ça semble à la limite une sorte de la majorité si vous voulez, en France c'est 18 ans mais bon, là-bas on dit 20. Dans d'autres textes on a 25 ans d'ailleurs, les Lévites, autant que je me souvienne, sont en exercice de l'âge de 25 à 50 ans. Je ne sais pas si on pourrait s'en inspirer pour la durée du travail, l'âge de la retraite. C'est sympa, on commence à travailler à 25 et on s'arrête à 50. Bon. Bref, alors, il faut dire qu'à l'époque, on vivait moins vieux, évidemment, donc ça pose moins de problèmes. Donc, on a, voyez, verset 21, on vous dit qu'il y a 46 500 hommes adultes dans la tribu de Ruben. Ensuite, on a Siméon, verset 23. Alors, si vous regardez l'ordre des 12 fils de Jacob, ce n'est pas tout à fait l'ordre dans lequel ils sont nés. Et ça, c'est intéressant quand on compare. Je vous avais déjà fait la remarque quand on avait regardé la fin du livre de la Genèse, quand vous aviez les paroles de Jacob sur chacun de ses 12 fils, les prophéties ou les bénédictions, eh bien, on s'était rendu compte que ce n'était pas non plus dans le même ordre. Donc l'ordre fluctue d'un texte à l'autre, c'est intéressant. Alors ensuite, donc Siméon, verset 23, Gad, verset 25, qui est le septième. Ensuite, on revient à Judas, verset 27, qui est le quatrième fils, Issachar, verset 29, etc., etc. On continue. Pour Joseph, on distingue Éphraïm et Manassé, versets 33 et 35, vous vous souvenez de l'histoire dans la Genèse, Joseph a deux fils, Manassé et Éphraïm, et puis lors de la bénédiction, Jacob croise les bras pour intervertir les deux. Et comme Joseph, lui, aura droit, donc chacun de ses fils aura droit à une tribu à part entière, donc de 12 on passe à 13, mais d'un autre côté, les Lévites, eux, Lévites n'aura pas de territoire, donc on redescend à 12 territoires. Donc vous avez ensuite Benjamin, verset 37, Dan, verset 39, 41, 43, Nephtali, etc. Et puis le total, verset 46, 603 550. Ça, ce sont donc 600 000 hommes adultes âgés de 20 ans. Alors si vous prenez les enfants, qui sont souvent nombreux, évidemment, si vous prenez les femmes, ça vous fait une grosse population. On dépasse largement la population de la communauté urbaine de Strasbourg, je pense. Donc imaginez une telle population en branle dans le désert. Ça paraît assez difficile à gérer. Alors les Lévites, verset 47, ne furent pas recensés. Pourquoi ? Précisément parce qu'ils n'auront pas de territoire. Le recensement vise à estimer la taille et la proportion pour ensuite permettre d'accorder une surface en terre promise. Or les Lévites, précisément, n'auront pas leur territoire, donc ils n'ont pas besoin d'être recensés. Ensuite, au chapitre 2, on va discuter de la disposition des tribus. Quand on se déplace, évidemment, au centre, il va y avoir le sanctuaire, la tente dont on a donné les mesures dans le livre de l'Exode. Et on avait un descriptif très précis de comment il fallait construire, avec quels matériaux, de quelles dimensions. Eh bien, on va avoir des tribus qui vont camper. Alors, on commence par l'est, verset 3. Ensuite, au verset 10, on aura au sud. Verset 18, à l'ouest. Et verset 25, au nord. Vous voyez, on a la disposition des tribus, et vous aurez donc de chacun des quatre côtés, à l'est, au sud, à l'ouest et au nord, vous aurez à chaque fois trois tribus, 3 fois 4, 12. Donc à l'est, vous avez Judas. Ça commence par Judas, alors qui pourtant n'est pas l'aîné, et bien sûr parce que Judas, c'est une tribu particulière, elle a été choisie, rappelez-vous, il y a des textes qui annoncent que le sceptre, la bénédiction de Jacob, nous indique que Judas, c'est la tribu qui aura la royauté. Et effectivement, mais ça préfigure ce qu'on verra, il faudra attendre le livre de Samuel pour ça, avec le jeune David qui deviendra le roi et à qui Dieu fera une promesse de dynastie éternelle. Donc vous avez Judas, Issachar, Zabulon, puis au sud vous en avez trois autres, à l'ouest vous avez Ephraïm, Manassé, etc. Benjamin. Et puis au nord, vous avez Dan, Asser, Nephtali. Cette disposition des tribus autour du sanctuaire, on la retrouve dans d'autres textes. On va la retrouver également quand il va s'agir... Tous les textes liés dans les littératures juives au sanctuaire, au temple plus tard. Vous prenez le rouleau du temple à Qumran, on vous parle de ça. Vous prenez le texte de la Nouvelle Jérusalem à Qumran, également en araméen. On vous parle de la disposition, alors pas forcément des tribus, parce que là on est dans un temple, dans une ville, mais on va avoir des portes, en fait. On va avoir des portes pour accéder au temple ou à la ville sainte, et ces portes, elles ont des noms, et elles ont les noms des 12 tribus d'Israël. Et vous avez la même chose dans le Nouveau Testament, vous allez voir du côté du livre de l'Apocalypse, vous avez également la Nouvelle Jérusalem à la fin de l'Apocalypse, et bien de nouveau, vous avez les noms des 12 tribus d'Israël de chaque côté. Donc ça, c'est quelque chose de récurrent que vous verrez tout au long de la littérature juive, lié au temple et au sanctuaire, c'est donc la disposition des tribus tout autour du temple, du sanctuaire. Alors ensuite, vous voyez, on progresse, hein, on dit voilà, on a dénombré, maintenant les gens sont, on les dispose, on en vient au cas des Lévites à partir du chapitre 3, verset 11 et surtout verset 12, Dieu dit « J'ai pris les Lévites d'entre les Israélites à la place de tous les premiers-nés, de tout Israélite né le premier de sa mère, les Lévites m'appartiennent, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. » Rappelez-vous, c'est la dernière et la pire des plaies, des fléaux qui se sont abattus sur l'Égypte, c'était la destruction, l'ange de la destruction qui passait et qui tuait tous les premiers-nés, et les Israélites avaient pu réchapper à ce jugement en sacrifiant l'agneau et en mettant le sang sur les linteaux des portes, etc., les bâtons et les linteaux. Et donc, ça leur a permis de réchapper, mais, d'une certaine manière, ils appartiennent à Dieu quand même. Et donc, Dieu... en compensation de tous les premiers-nés, eh bien, s'octroient les Lévites. Et il se trouve que, comme par hasard, le hasard fait bien les choses, il y a plus ou moins autant de Lévites que de premiers-nés dans le reste du peuple. Vous voyez, on nous dit, verset 39, qu'il y a 22 000 Lévites, alors que, verset 43, les premiers-nés mâles recensés du peuple d'Israël sont 22 273. Donc, quand Dieu dit, finalement, à la place des premiers-nés, je prends les Lévites, on se dit, oui, c'est à peu près la bonne chose. Bon. Les chiffres sont à peu près identiques. Et donc, les Lévites vont avoir toute la charge, toutes les affaires religieuses relèvent des compétences des Lévites, y compris les questions pratiques, les questions logistiques. Il va falloir monter, démonter, installer, transporter, il va y avoir une logistique quand on va faire les sacrifices, etc., etc. Donc tout ça, c'est la charge des Lévites. Alors, on distingue trois groupes de Lévites au verset 17. En fonction des trois fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Vous voyez, verset 17, chapitre 3, verset 17, vous avez les trois fils de Lévi. Et donc, chacun va avoir une responsabilité. On va trouver ça au chapitre 4. Au chapitre 4, on nous dit, on va commencer chacun des trois fils, ou plutôt chacun des trois groupes de Lévites, selon leur ancêtre, que ce soit Gershon, Kehat ou Merari, va avoir une fonction particulière. Alors, au chapitre 4, on commence par Kehat. Alors c'est intéressant parce que c'est le deuxième fils, pourquoi ne pas commencer par le premier? Et en plus, les fils de Kehat vont avoir la charge, attention, au verset 4 et 5, de ce qui est très sacré. Il décroche le... Vous savez, donc, on avait expliqué que pour le sanctuaire, vous avez le lieu très saint en plein centre, c'est là que vous avez le coffre de l'Alliance avec les chérubins, et vous avez un rideau, et ensuite vous avez une autre pièce, et puis ensuite vous avez encore une autre enceinte, et donc de façon concentrique, un peu comme les poupées russes, vous partez du cœur, qui est le lieu le plus sacré, vers l'extérieur. Eh bien, ceux-là, ce sont ceux qui auront en charge les choses les plus sacrées, notamment le coffre du témoignage, la fameuse arche de l'Alliance, et avec le rideau, etc. Enfin voilà, donc on nous décrit tout ce qu'ils vont faire. Et ce sont eux qui vont s'en occuper, alors que à partir du verset 21 plus loin, on nous parle des fils de Gershon, qui à ce moment-là, eux, se chargeront au verset 25 des toiles de la demeure, de la tente de la rencontre, etc., etc. Et puis enfin, en verset 29, les fils de Merari, eux, auront à charge, verset 31, les planches, les barres, les colonnes, les socles, etc., les piquets, les cordages. Donc, on se dit, tiens, la belle part des objets les plus sacrés revient au deuxième fils de Lévi, et pas à son premier. Alors, est-ce que vous avez une idée? ceux qui aiment les questions généalogiques. Non ? Alors, en fait, Kehat va avoir un fils qui va s'appeler Amram, et Amram va avoir deux fils qui vont s'appeler Aaron et Moïse. Et voilà, et c'est ça la différence. C'est que on savait qu'Aaron et Moïse étaient des Lévites. Hein. On en avait parlé la dernière fois, je vous avais dit, c'est Aaron, du coup, le frère de Moïse, qui sera le grand prêtre. Et ce sera donc de sa descendance qu'on aura les grands prêtres. Donc vous avez parmi les Lévites, vous avez les prêtres, et parmi les prêtres, vous avez le grand prêtre. Donc c'est Aaron et puis Moïse, bon, bien sûr, pas besoin de présenter Moïse. Donc en fait, parmi les trois fils de Lévi, c'est Kehat qui va être l'ancêtre d'Aaron et Moïse, en passant par Amram. Alors ce sont des personnages qui sont peu connus dans la Bible, mais le fait qu'ils aient cette généalogie illustre a fait qu'on a développé une littérature les concernant. Vous regardez dans la littérature apocryphe, juive, eh ben, vous trouvez des paroles, le testament de Kehat, le testament d'Amram, etc., etc. Si vous voulez découvrir ces manuscrits, ils ont été publiés, vous avez une traduction française, dans la bibliothèque de Qumran, la collection aux éditions du Cerf, le premier volume consacré à la Genèse, je crois, c'est là qu'on va trouver les testaments de ces personnages-là, peut-être dans le deuxième volume, je ne sais pas. Donc une collection qui est co-dirigée par Thierry Legrand et moi-même. Donc vous voyez, les collègues de cette maison ne sont pas étrangers à ce projet de publication. Donc vous voyez que ce sont des personnages qui passent presque inaperçus dans la Bible, mais en réalité, on s'y intéresse dans la littérature juive. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc chacun, on sait comment il va falloir faire pour transporter tout ça. Et puis, vous voyez, alors au chapitre 5, d'un seul coup, on bascule, on dit « Ah bon, alors attendez, on vous donne un petit peu de législation, voilà ce qu'il faut faire pour des questions de pureté, d'impureté, on vous parle lorsqu'une femme est soupçonnée d'adultère, comment fait-on pour savoir si elle a vraiment commis l'adultère ou non ?» Parce que, vous voyez, c'est pas évident quand elle n'est pas prise sur le fait, c'est parole contre parole. Alors vous avez des rituels qui sont proposés, qui sont d'ailleurs un peu bizarres. Et puis ensuite, au chapitre 6, on nous parle du vœu de Naziréa. Un nazir, donc c'est quelqu'un qui va se consacrer, se mettre à part. Et du coup, on dit, bah, celui qui va être nazir, eh bien, il a trois contraintes au chapitre 6. D'une part, il s'abstient de vin, de boissons alcoolisées, d'aucune boisson à base de raisin. Il ne mangera ni raisin frais, ni raisin sec. Donc, rien de raisin. Donc, c'est pas juste l'alcool. Hein, c'est même les petits raisins secs à l'apéro. Bah, tant pis, hein, il faut faire une croix dessus. Il faudra se contenter des cacahuètes et des noix de cajou. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est terrible. Ensuite, deuxièmement, verset 5, on nous dit le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc voilà, il ne se coupe pas les cheveux pendant toute la durée de son vœu. Et puis, troisièmement, il ne s'approchera pas d'un mort, donc il doit rester distant. Donc ça veut dire que même si quelqu'un de sa famille meurt, eh ben, il ne peut pas, faut pas qu'il s'approche trop près. Voilà les règles concernant son vœu. Et puis, ça dure un certain temps, et quand c'est fini, on nous explique à la fin ce qu'il fera quand ce sera terminé. Par exemple, verset 18, le nazir rasera à l'entrée de la tente de la rencontre sa chevelure de nazir, il prendra ses cheveux de nazir et les mettra sur le feu qui brûle sous le sacrifice de paix. Il faudra brûler les cheveux, etc., etc. Et puis ensuite, pareil, à la fin du verset 20, on nous dit, voilà, il fera tout ça, puis ensuite, le nazir pourra boire du vin. Et puis à la fin du chapitre 6, on a, à partir du verset 22, une formule de bénédiction qui est célèbre, que vous connaissez certainement, versets 24 à 26, « Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. » Alors ça, c'est ce qu'on appelle la bénédiction sacerdotale, qui s'est maintenue dans la liturgie jusqu'à nos jours. Si vous allez à l'église, certainement vous avez déjà entendu cette bénédiction. Elle est ultra connue. Et on sait que les paroles de cette bénédiction sont anciennes. On a retrouvé dans des tombes, si vous voulez, à Jérusalem, à côté de la vieille ville, des petites amulettes sur argent, donc des petites feuilles d'argent, sur lesquels on avait incisé, gravé donc du texte, roulé la petite amulette, et certainement, vraisemblablement, elle devait se porter autour du cou, quelque chose comme ça. Enfin, ça servait de bénédiction. Et cette amulette, elle est datée, elle est écrite en paléo-hébreu, donc on date ça probablement du 6e siècle avant notre ère, quelque chose comme ça. Le contexte archéologique suggère que c'est peut-être au moment de l'arrivée des Babyloniens, vous voyez, Nabucodonosor, tout ça, donc peut-être voilà, début 6e siècle avant notre ère. Et on retrouve, avec quelques variantes, la même formulation que celle qu'on a ici. Et, bon, alors pas tout à fait, puis on ajoute d'autres choses. Il y a deux petites amulettes, puis il y a d'ailleurs des variantes entre les deux petites amulettes. Elles ont été déchiffrées, et ça m'a mis beaucoup de temps à les déchiffrer, elles ont été publiées il n'y a pas très longtemps en fait, il y a quelques années, et ça a été pas mal médiatisé. Parce que certaines personnes disaient « Ah, on a retrouvé le plus ancien texte de la Bible », parce que 6e siècle avant notre ère, c'est très ancien. Les plus anciens manuscrits bibliques, c'est Qumran, vous voyez, c'est tournant de notre ère. Donc là, d'un seul coup, on ferait un bond de 500 ans en arrière. En fait, ça n'est pas un manuscrit biblique, c'est une formule de bénédiction qu'on retrouve également dans Nombre au chapitre 6. Mais ça ne veut pas dire que ce que la personne avait autour du cou, c'était le chapitre des Nombres, le chapitre 6 du livre des Nombres. Ça veut dire qu'il y a des formules de bénédiction qui circulent et qu'à un moment, elles circulent à l'oral et qu'à un moment donné, on les met à l'écrit d'un côté sur des amulettes, de l'autre dans le livre des Nombres. Vous voyez ? À vrai dire, le livre des Nombres est peut-être même plus tardif que cette amulette, puisque le livre des Nombres, certaines sections du livre des Nombres datent vraisemblablement de l'époque perse. On a certains termes dans le texte hébreu du livre des Nombres qui ne sont pas utilisés avant l'époque perse, par exemple. Certaines sections, alors le livre des Nombres a pu connaître des phases de rédaction plus anciennes, mais ce qui est sûr, c'est que la forme finale est plus tardive que ça. Donc, vous voyez, on alterne comme ça dans ce livre avec des là, on est dans des préparatifs. Hein. Alors, on continue, chapitre 7, les chefs des familles d'Israël apportent des chariots pour aider à porter toutes les affaires du sanctuaire, etc., etc., pour que les pauvres lévites n'aient pas à porter tout à bout de bras. Alors, sauf les fils de Kehath, justement, verset 9, eux, ils sont chargés du service des choses sacrées, donc ils doivent les porter sur les épaules. Donc c'est ça, c'est le revers de la médaille. D'un côté, ils ont le droit de porter les choses sacrées, d'un autre côté, ils n'ont pas le droit de les mettre sur des chars. Alors on reverra ça quand l'épisode de David qui veut transporter l'arche et les mettre sur un chariot, etc. On y reviendra quand on étudiera ce texte d'ici, on sera certainement au second semestre. Alors ensuite, on continue, chapitre 8, on décrit des choses, on donne des prescriptions sur la purification, la consécration des Lévites. Et puis chapitre 9, on célèbre la Pâque. Très important. Alors la Pâque, on l'a déjà célébrée dans le livre de l'Exode, précisément, puisque c'était la sortie d'Égypte. Et là, ça veut dire qu'on a célébré le premier anniversaire. On dit, voilà, ça fait un an qu'on a quitté l'Égypte, ça fait un an que Dieu nous a délivrés. Et donc, on célèbre au chapitre 9 la Pâque. Et c'est une façon de dire, attention, voilà, cette fête, ce n'était pas une seule fois, mais c'est chaque année. Donc, bien que c'est chaque année, le premier mois, et puis on dit le 14e jour de ce mois à la tombée du soir. Et on donne des instructions précises qui correspondent à ce qu'on avait vu dans l'Exode. À la fin du chapitre 9, on nous explique le quotidien, que c'est la nuée qui précède le peuple. Quand elle s'élève, on se met en branle. Quand elle repose, on s'arrête. Et toute la fin du chapitre 9 est très redondante. Si vous lisez ces versets-là, on répète 10 000 fois la même chose. C'est assez fatigant. Mais en fait, c'est de la rhétorique. C'est-à-dire, on insiste sur le fait que c'est mécanique. La nuée s'élève, on y va. Elle s'abaisse, on s'arrête. Si la nuée reste longtemps, on reste. Si la nuée reste peu de temps, on reste peu de temps, etc., etc. C'est vraiment pour insister sur le côté de la soumission et de l'obéissance aveugle, totale, en disant quand Dieu donne des instructions, on ne discute pas, on s'exécute. Alors... Et puis le chapitre 10 a encore des petites... il y a l'histoire des trompettes, et puis Jéthro qui vient, le beau-père de Moïse, qui s'appelle ici Réuel. Je vous avais dit quand on avait fait le livre de l'Exode que le beau-père de Jéthro, de Moïse, s'appelle tantôt Jéthro et tantôt Réuel. Ici, il les rejoint. Et puis ça y est, grosso modo, on est prêt à partir. Tous les préparatifs sont faits. Les 10 premiers chapitres ont été rédigés. Et... on est prêt à y aller. Bon. On a même les chants pour... regardez verset 35. Quand le coffre partait, Moïse disait « Lève-toi, Seigneur, que tes ennemis se dispersent, que ceux qui te détestent fuient devant toi. » Et quand il s'arrêtait, verset 36, il disait « Reviens, Seigneur, vers les dizaines de milliers de fratries d'Israël. » Donc on a presque un refrain. On se dit « Avec ça, on est prêt à y aller. Dans quelques semaines, on entre en terre promise. » Il y a tout ce qu'il faut pour prendre possession de la terre promise. Et c'est là que ça commence... à se dégringoler. À partir du chapitre 11, vous avez le cycle d'un certain nombre d'épisodes de rébellion du peuple. Le peuple est rebelle, le peuple se plaint, le peuple est... etc., etc. Donc vous allez avoir tout ce cycle qui va durer pratiquement jusqu'au... jusqu'au chapitre 25, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la première génération. À partir de là, jusqu'à la fin de la première génération, c'est catastrophe sur catastrophe, pratiquement. Le peuple se plaint, chapitre 11, le peuple se plaignait amèrement en présence du Seigneur. Et à chaque fois, Dieu se met en colère, etc. Puis en fait, finalement, Dieu, alors Moïse intercède, etc. Bon. On a à nouveau le même problème, le peuple qui réclame de la viande. Alors certains épisodes, on les connaît déjà. L'histoire du peuple qui réclame de la viande, etc. Vous pouvez les voir, Exode chapitre 16, il en est question également. Donc certains épisodes, en fait, on les trouve déjà ailleurs, ou parfois dans des variantes un peu différentes. Hein. Ça, je vous avais expliqué, vous avez un même récit qui circule dans des milieux différents. Donc chaque milieu, chaque communauté fait vivre le récit, l'enrichit, et finalement vous avez parfois des versions un peu différentes d'un même récit primitif qui se retrouve dans deux endroits. Donc le peuple se plaint, Moïse lui-même en a marre, il dit, verset 14, « Je ne peux pas à moi seul porter tout ce peuple, il est trop lourd pour moi. Puisque c'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc, je t'en prie. » Donc Moïse veut mourir. Il déprime, c'est vraiment la grosse dépression, je préfère mourir, etc. Et puis, Dieu va aider Moïse, va le rassurer, et puis on va avoir un phénomène intéressant. Alors, on retrouve un peu ce qu'on a vu dans Exode 18, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Exode 18, mais Moïse avait la visite de son beau-père, Jéthro, qui lui disait « mais tu ne peux pas tout faire, c'est trop lourd pour toi, délègue ». Et il avait délégué, et là c'était dans un cadre plutôt juridique, c'était pour gérer les litiges, les conflits, etc. Et là c'est différent, Dieu dit, verset 17, « Je descendrai, je te parlerai, je retirerai un peu du souffle qui est sur toi, je le mettrai sur eux, pour qu'ils portent avec toi la charge du peuple. » Alors le souffle divin, en hébreu le mot souffle c'est pareil que le mot esprit, le souffle divin c'est l'action de Dieu, donc ça veut dire que le souffle divin qui repose sur Moïse, une partie, cet esprit, ce souffle prophétique donc, reposera en partie sur les autres. Et c'est ce qui se passe au verset 25. Le Seigneur descendit dans la nuée et lui parla. Il retira un peu du souffle qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que le souffle se posa sur eux, ils se mirent à faire les prophètes, mais ils ne continuèrent pas. Donc, ils se mirent à faire les prophètes, j'aime pas trop la traduction. Ils se comportèrent en prophètes, vraiment, ils prophétisèrent. Et donc, Moïse n'est plus le seul prophète. Les autres sont là aussi, ils sont aussi utilisés par Dieu, une sorte de délégation. Cette fois-ci dans une dimension plus prophétique que juridique. Mais on est bien dans un texte parallèle à Exode 18. Alors les autres sont jaloux et Moïse répond, verset 29, « Si tout le peuple du Seigneur était composé de prophètes, si seulement le Seigneur mettait son souffle sur eux, il le souhaite. » Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Au chapitre 12, de nouveau, vous avez Myriam et Aaron qui se plaignent. Alors pas spécialement sur cette histoire de prophétie, mais plutôt sur le mariage, le fait que Moïse est marié à une couchite, c'est-à-dire une africaine. Et ils dirent, verset 2, « Est-ce seulement par Moïse que le Seigneur parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Donc c'est un peu jaloux en disant « Nous aussi, bon. » Ils aimeraient bien aussi être prophète à la place du prophète ou calife à la place du calife. Or, verset 3, nous dit-on, « Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la terre. » Waouh, c'est sympa pour Moïse, hein. Alors ça me fait toujours rire quand il y a des gens qui disent que c'est Moïse qui a écrit le Patateuc, parce que je vois très bien Moïse écrire ça de lui-même. Et donc Dieu est obligé évidemment de remettre de l'ordre dans tout ça, en disant, verset 6, « S'il y a parmi vous un prophète du Seigneur, c'est dans une vision que je me ferai connaître à lui, c'est dans un rêve que je lui parlerai. S'il n'en est pas ainsi de Moïse, mon serviteur, il est l'homme de confiance pour toute ma maison, je lui parle de vive voix, en vision, mais sans énigme, et il contemple la forme même du Seigneur. » Ça c'est très intéressant par rapport justement au mouvement prophétique, où là on positionne Moïse comme étant carrément au-dessus des prophètes. Il y a les prophètes qui déjà ont le privilège de recevoir des visions, des révélations, etc. Mais en fait, Moïse est carrément au-dessus de ça. Il est encore au-dessus des prophètes, puisque Dieu lui parle de vive voix, sans énigme, il contemple la forme même du Seigneur. C'est très, très intéressant. Enfin voilà, donc on arrive ensuite au chapitre 13-14, qui sont des chapitres fondamentaux du livre des Nombres. C'est peut-être, s'il faut retenir quelque chose du livre des Nombres, c'est qu'on commence avec la première génération, on termine avec la deuxième génération, et en plein milieu, il y a la bascule. Et la bascule, c'est ça, c'est on envoie au chapitre 13 des espions en Canaan. Ça veut dire qu'on est arrivé suffisamment proche, on est aux portes de la terre promise. Vous voyez, il ne faut pas longtemps hein, pour traverser le désert. Et là, on envoie des éclaireurs. Et on en envoie un de chaque tribu, donc 12. On les envoie, ils explorent le pays, Et on leur demande de faire un rapport. Vous voyez, verset 18, vous verrez le pays ce qu'il est, le seigneur qui l'habite, s'il est fort ou faible, le peuple qui l'habite, etc., s'il est en petit ou en grand nombre, voilà. Donc ils y vont, ils reviennent, et ils reviennent même avec un échantillon. Verset 23, ils arrivèrent jusqu'à l'oued Eshkol, où ils coupèrent un sarment de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils durent porter à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Donc imaginez cette grappe de raisin, il faut être à deux à la porter avec une perche. Donc imaginez la taille du bestiau. Ils reviennent au bout de 40 jours, verset 25. Vous savez, en 40 jours, ils ont le temps d'y aller, de visiter, de revenir. Donc on est vraiment aux portes. Et là, ils leur disent, verset 27, nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est un pays ruisselant de lait et de miel, et en voici le fruit. Alors le lait et le miel en hébreu, le lait, on l'a vu ce matin, c'est chalav, et le miel, c'est dvash. Voilà, il faut retenir chalav ou dvash, les deux font la paire. En hébreu, vous avez tout le temps le lait et le miel. Donc, quand vous apprenez votre vocabulaire, je dis ça pour les étudiants qui apprennent l'hébreu, apprenez les deux ensemble, parce que de toute façon, on les trouve souvent ensemble. Et c'est bien sûr, ce sont les symboles de la fertilité par excellence. Mais, verset 28, le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu les Anakites. Alors, c'est qui les Anakites? C'est les descendants d'Anak. Et Anak, c'est un géant. On nous le dit, regardez verset 33. Nous avons vu là les Néphilim, les Anakites. Alors, les Néphilim, Naphal, ça veut dire tomber en hébreu. Les Néphilim sont ceux qui sont tombés. Ça nous renvoie au chapitre 6 de la Genèse, où il est question des fils des dieux qui s'unissent aux filles des hommes et qui ont les géants. Et ce sont les Néphilim, etc. Donc les Néphilim, ce sont ceux qui sont tombés. Donc ce sont soit les anges déchus qui sont tombés du ciel, soit ce sont c'est leur postérité. Leur postérité sont ce qu'on appelle les géants, et les Anakim en font partie. Donc ce sont des descendants, si vous voulez, de ces êtres, de ces demi-dieux ou de ces géants nés de l'union des anges déchus avec les femmes. Donc ce sont des hommes de haute taille. Verset 33. Nous étions à nos propres yeux comme des criquets. Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Donc voilà, on est ridicule, on est tout petit, on est misérable, ils nous écrasent de leurs talons tellement on est petit par rapport à eux, ce sont des géants. Donc, on ne peut pas y aller. Hein. Verset 31, nous ne pouvons pas monter vers ce peuple car il est plus fort que nous. Ça ne marchera pas. Alors que Caleb, verset 30, lui, avait dit, montons et prenons possession du pays, nous serons vainqueurs. Donc, manifestement, vous avez sur les 12 espions, il y en a 10 qui disent... ils sont tous d'accord pour dire que le pays est formidable, mais il y en a 10 qui disent « on ne va jamais y arriver, ils sont beaucoup trop forts, on va se faire massacrer ». Et en fait, il y a Caleb et puis Josué également. C'est ce qu'on voit quelques versets plus loin, chapitre 14, verset 6. Josué et Caleb sont les deux seuls qui disent « mais non, on peut y arriver ». Parce que le peuple, du coup, regardez le chapitre 14, ils déchirent leurs vêtements, et puis verset 8, « Si le Seigneur prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. » Verset 9, « Ne vous rebellez pas contre le Seigneur, n'ayez pas peur du peuple du pays, nous n'en ferons qu'une bouchée. Le Seigneur est avec nous, n'ayez pas peur d'eux. » Donc l'idée c'est ça, c'est oui, bien sûr, ils sont beaucoup plus forts que nous, mais nous avons Yahvé avec nous, nous avons Dieu avec nous, donc on va y arriver. Mais les autres, non, ils disent non, on n'a qu'à retourner en Égypte. Verset 4, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Ils disent, coup d'État, on va virer Moïse, on va virer tous les autres, on va repartir en Égypte. Alors voilà, c'est l'énième, à chaque fois le peuple se plaint, le peuple dit, mais finalement c'était mieux en Égypte, on ferait mieux d'y retourner, etc., etc. Et là, c'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Si, c'est possible. Dieu décide, il dit, je vais les faire mourir. Si c'est comme ça, je vais tous les massacrer. Alors c'est Moïse qui intercède encore. Et c'est Moïse qui dit, mais non, il dit à Dieu, mais à quoi tu vas ressembler? Si tu tues ce peuple maintenant, qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Les Égyptiens, ils ont vu que tu étais un dieu puissant, etc., etc. Tu vas te ridiculiser. Alors vous vous souvenez qu'on a déjà vu un épisode similaire. Hein, c'est encore une autre version du même épisode, où Moïse utilise l'argument de la notoriété de Dieu en disant « mais tu vas passer pour qui ? Aux yeux des Égyptiens et de leur Dieu, tu dois montrer que toi... » Bon. Et donc finalement, Dieu dit « bon, d'accord, ok, très bien. » Verset 20, le Seigneur dit « je pardonne, selon ta parole. Mais par ma vie, par la gloire du Seigneur qui remplit toute la terre, blablabla. » Eh bien, il dit, verset 23, « aucun ne verra le pays que j'ai promis par serment à leur père. Aucun de ceux qui m'ont bafoué ne le verra. » Mais parce que Caleb, mon serviteur, a été animé d'un autre souffle, etc., etc. Alors là, lui, il aura le droit. Bon. Donc finalement, ils vont tous mourir. Il dit, ben voilà, ils ne veulent pas aller ils veulent pas aller dans la terre promise. Eh ben, ils n'iront pas. Ils vont passer tout le reste de leur vie dans le désert. Et on attendra qu'ils soient tous morts pour ensuite prendre possession de la terre promise. Donc, le séjour dans le désert qui devait durer quelques semaines, on devait là prendre possession du pays tout de suite, finalement, ça va durer 40 ans. Et c'est ce qui va se passer. Verset 34, selon le nombre de jours que vous avez mis à explorer le pays, c'est-à-dire 40 jours, vous serez chargé de vos fautes 40 années, une année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce qu'est ma disgrâce. Donc, dit voilà, ils ont mis 40 jours à explorer le pays, les 12 espions, et bien, le peuple a passé 40 ans dans le désert. C'est le temps qu'il faudra pour que cette génération-là meure. Et ce seront leurs enfants qui hériteront la terre promise. Alors, au chapitre 15, on a de nouveau une petite parenthèse de texte législatif sur la question des offrandes, les offrandes végétales, les offrandes donc avec oblation, libation, les offrandes liquides, etc., etc. Bon, voilà, il y a des... Ensuite, on revient, il y a des petites histoires, il y a encore des révoltes, chapitre 16... Il y a des gens qui se... Tout ça, c'est des histoires de révolte, de rébellion. C'est tout un cycle. Je vous disais, jusqu'au chapitre 25, on ne s'en sort pas. Je ne vais pas toutes les détailler. C'est assez déprimant. À vrai dire, c'est pas très agréable à lire ces chapitres-là, parce qu'on se dit, mais alors vraiment, ils comprennent rien à rien, quoi. Et donc, on alterne entre des récits de révolte et puis des récits législatifs, sacerdotaux notamment. Chapitre 18, il est question du rôle des prêtres, des revenus des prêtres, des revenus des lévites, etc. La dîme, la question de la dîme, donc c'est 10%. C'est une pratique qui est encore en vigueur aujourd'hui dans les églises évangéliques, notamment pentecôtistes, disons fondamentalistes ou conservatrices, où on dit voilà, c'est la loi c'est la dîme, et donc on applique la loi. Dans des milieux un peu légalistes. Ça vient de la Bible. Hein. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi les gens donnent 10% de leurs revenus à l'église, ben ça vient de là. Donc on continue, on a des lois, des histoires. Chapitre 20, on a de nouveau l'histoire du peuple qui se plaint et du coup et qui veut de l'eau. Enfin bref, donc à chaque fois c'est les mêmes histoires qui reviennent, c'est vraiment triste. On a à partir du chapitre 20 et jusqu'au chapitre suivant, on a des histoires un peu plus sympas. Là on s'y arrête un petit peu, on a des histoires de guerre. Parce que là, c'est pas tout, mais on se balade, on approche quand même, on tourne autour du pot, on tourne autour de la table promise, mais du coup, on rencontre des gens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on demande de passer, par exemple, chapitre 20, verset 14, on explique qu'on veut passer, on demande au roi d'Édom. Alors, l'Édom, c'est la partie au sud de la mer Morte, légèrement à l'est, disons, de ce qui ferait la faille, du rift syro-africain, donc si vous voulez, à la verticale entre la mer morte et la mer rouge, eh bien, à l'est légèrement, vous avez qui correspond à la Jordanie actuelle, en fait, le sud de la Jordanie. Ça correspond, disons là, au territoire d'Édom. Donc ils disent, on veut passer, laisse-nous, verset 17, laisse-nous, je te prie, passer par ton pays, nous ne passerons pas dans les champs, etc., nous suivrons la route royale sans nous écarter. Donc on dit, on veut juste passer, on est là, on veut juste passer, on ne veut pas faire la guerre. Mais le roi répond, non, tu passeras pas. Bon. Donc on voit qu'il commence à avoir des tensions avec les peuples. Et puis au chapitre 21 de nouveau, on a le roi d'Arad. Alors Arad, c'est le désert, mais là c'est à l'ouest de la mer Morte. Et là, du coup, il y a la guerre. Alors on les combat, il fait des captifs, il prend les captifs, mais finalement Dieu donne la victoire et on a la victoire contre le roi d'Arad. On a l'épisode, quelques versets, l'épisode des serpents brûlants. Le peuple se plaint là encore, on est toujours dans le cycle du peuple qui se plaint. Mais c'est le Seigneur envoie, verset 6, des serpents brûlants. Beaucoup de gens meurent et ils se plaignent évidemment, ils demandent pardon, enfin bref. Et puis finalement, verset 8, le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque a été mordu et le verra restera en vie. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Si quelqu'un était mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il restait en vie. Alors c'est intéressant parce que il est question ici de bronze. Et donc le bronze est fait à partir de cuivre. Or on est dans une région qui est très riche en cuivre. Et justement si vous allez à Timna, donc c'est au sud d'Israël, un peu au-dessus à quelques dizaines de kilomètres au nord de la mer Rouge, eh bien, vous pouvez visiter les mines de cuivre qui datent de l'époque du bronze, donc la fin de ce qu'on appelle du bronze récent, l'époque, si vous voulez, de Moïse ou quelque chose comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que dans le matériel archéologique, on a retrouvé notamment des petites figurines qui représentent des serpents. Donc, si vous cherchez un serpent de bronze de l'époque de Moïse, bah, il y en a un, il est exposé au musée, où est-ce que je l'ai vu ? Il est à Tel Aviv, au musée, musée archéologique de Tel Aviv. Donc, c'est intéressant de faire le lien avec la documentation archéologique contemporaine. C'est évidemment également intéressant de faire le lien avec le Nouveau Testament, puisque Jésus fait référence à cet épisode où il dit, ben voilà, de la même manière qu'il y a un serpent qui a été élevé par Moïse, mis en hauteur, et les gens qui regardaient le serpent avaient la vie sauve, et bien, de la même manière, moi, finalement, Jésus, je suis moi aussi mis en hauteur, il est suspendu, là, il est sur la croix, et les gens qui lèvent les yeux à la croix, avec foi, eh bien, finalement, ils peuvent aussi avoir la vie sauve. Donc, Jésus dresse un parallèle entre cette histoire et lui-même. Donc, c'est évidemment une anecdote qui est intéressante pour la comparaison avec le Nouveau Testament. Alors donc, en tout cas, il y a encore d'autres histoires de guerre. Il y a le roi des Amorites, toujours chapitre 21, le roi du Bashan, etc., etc. Et puis au chapitre 22, on a un autre roi, Balak, qui est roi de Moab. Alors Moab, c'est la région qui est à l'est du Jourdain, mais face à la mer Morte, le long de la mer Morte, la rive orientale, donc c'est là toujours en Jordanie actuelle, hein, eh bien c'est là que vous avez les montagnes de Moab. Et là, il fait intervenir un personnage qui s'appelle Balaam, fils de Béor, au verset 5. Et alors, ce personnage va occuper les chapitres 22, 23, 24. Il va y avoir des histoires rocambolesques, vous les avez lues. Et c'est très intéressant parce que ce personnage, Balaam, fils de Béor, il est connu en dehors de la Bible. On a retrouvé des textes, peut-être même des textes qui lui sont attribués, puisqu'il y a un texte, alors qui est malheureusement fragmentaire, qui est en araméen, enfin, genre un dialecte proche de l'araméen, on va dire, qui est le livre des paroles de Balaam, fils de Béor. Et on a retrouvé ça sur un site en Jordanie, dans la région de Moab, d'ailleurs, là, enfin, un peu plus au nord, à vrai dire, mais disons, du côté... Enfin, pas, quelques centaines de kilomètres de là, disons, on est, c'est pas au bout du monde. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en Transjordanie, si vous voulez, en Transjordanie, à Der Allah, un site archéologique qui s'appelle Der Allah, on a retrouvé des inscriptions sur plâtre qui datent du 8e siècle avant notre ère, si mes souvenirs sont bons. Donc 8e siècle avant notre ère, on est en plein dans l'époque de rédaction des textes bibliques, etc. Et on a trouvé des textes qui nous parlent de ce Balaam, fils de Béor. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir des parallèles sur une activité prophétique. Et la présence de personnages qui sont par ailleurs mentionnés dans la Bible. Donc ça veut dire qu'il y a des traditions qui circulent concernant ce personnage et que certaines de ces traditions se sont retrouvées intégrées dans la Bible. Alors sauf que ce Balaam, il est un peu surprenant parce qu'on lui demande de maudire le peuple. On lui dit, hein, verset 6, « Je te prie, maudis ce peuple pour moi. » C'est le roi qui demande à Balaam de maudire. « Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Donc apparemment, Balaam a vraiment le pouvoir de bénir et de maudire. Mais il dit, « Je vous donnerai ma réponse, verset 8, d'après ce que Yahvé me dira. » Donc apparemment, Balaam, il veut savoir quelles sont les instructions de Yahvé. Or, précisément, Yahvé lui donne pour instruction de ne pas maudire le peuple d'Israël. Alors il y a un épisode marrant, c'est que Balaam, Dieu lui parle au travers, il y a l'épisode de l'ânesse au verset 21 et suivant. L'ânesse, Dieu envoie un messager, une sorte d'ange qui est invisible, mais l'ânesse le voit, elle fait un détour, alors lui il comprend pas, enfin bref. Donc Balaam s'énerve contre son ânesse et son ânesse finit par lui répondre, lui parler. Alors il est tout surpris et là d'un seul coup il voit le fameux messager. Enfin bref, donc c'est un épisode très drôle. Donc finalement, il ne maudit pas le peuple, et ça se fait à plusieurs reprises, vers chapitre 23 et 24, et on a plusieurs poèmes, plusieurs récits, plusieurs discours, c'est le terme machal qui est utilisé en hébreu là, et à chaque fois qu'on lui demande de maudire, finalement, il bénit. Alors à chaque fois, Balak est énervé, Balak dit « je t'ai embauché pour maudire le peuple, et finalement tu le bénis ». Une première fois, une deuxième fois, chapitre 23, donc première fois, chapitre 23, verset 1, verset 7, pardon, deuxième fois un peu plus loin, verset 18, chapitre 24, verset 3, à chaque fois on voit alors je vous laisse découvrir le texte, on n'a pas le temps de s'attarder là-dessus, Mais finalement, verset 10, chapitre 24, verset 10, Balak se mit en colère contre Balaam. Et, c'est pour vouer mes ennemis à la malédiction que je t'ai appelé, et par trois fois déjà tu les as bénis. Donc il dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et puis finalement, il prononce un quatrième poème, verset 15, et qui finit de couronner le tout, et bon, ça montre bien que de toute façon, il prophétise la victoire des Israélites. Alors donc, il est un peu ambigu, ce personnage de Balaam, on ne sait pas d'où il vient. D'un côté, apparemment, il arrive à être en contact avec Yahvé, mais pas toujours comme on le voudrait. Des fois, il faut faire intervenir une ânesse. Il est connu en dehors de la Bible, je disais tout à l'heure, les inscriptions d'Erala. Et puis, même dans la Bible elle-même, dans le livre des Nombres lui-même, on enchaîne au chapitre 25 avec encore une histoire de désobéissance, de rébellion, qui va clore d'ailleurs cette affaire avec une question d'idolâtrie. Au chapitre 25, on nous raconte, chapitre 25, verset 2, elles invitèrent, les filles de Moab invitent le peuple au sacrifice de leur Dieu, le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu, Israël s'attacha au Baal de Péor, et le Seigneur se mit en colère contre Israël. Eh bien, cet épisode, eh bien, il est mis un peu plus loin, j'anticipe un peu, mais si vous regardez au chapitre 31, verset 16, où on reparle de ces femmes, ce sont elles qui, par la parole de Balaam, ont entraîné les Israélites au sacrilège envers le Seigneur dans l'affaire de Péor. Donc, on nous dit au chapitre 31, verset 16, qu'en fait, c'est Balaam qui est à l'origine de ce sombre épisode du chapitre 25. Alors que quand vous lisez chapitre 25 lui-même, ça n'y apparaît pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'était la volonté de l'auteur du chapitre 25 et qu'à un moment donné, la mention à Balaam a été retirée ? Est-ce que ce n'était pas du tout l'intention de lier, mais comme les deux épisodes se font suite, il y a un autre rédacteur qui s'est dit, mais en fait, c'est du même coup ? Est-ce que c'est quelqu'un qui voulait, qui était gêné par ce personnage de Balaam et qui a voulu noircir le tableau, etc., etc. Donc, vous avez une perception ambiguë. Et si vous regardez la littérature juive, postérieure et chrétienne d'ailleurs, vous verrez, vous retrouvez ces deux approches plus ou moins ambiguës. Certains voient en Balaam un prophète de Dieu qui est un homme saint, puisque voilà, il a refusé, alors que pourtant on lui proposait la gloire, l'honneur, les richesses. Eh bien non, il ne s'est pas laissé avoir, il a béni le peuple et il ne l'a pas maudit, donc c'est vraiment un homme bien. Et puis d'autres disaient, mais non, ce n'est pas un homme bien du tout. Donc il y a une étudiante chez nous qui a fait sa thèse là-dessus, sa thèse de doctorat, qui sera peut-être publiée, j'ai proposé de publier sa thèse dans la collection que je dirige, mais il faudrait qu'elle prenne le temps de mettre en... Enfin voilà, il y a des choses à refaire, disons, pour mettre en forme et en faire un livre. Donc peut-être le livre paraîtra un jour, je vous tiendrai au courant. Bref, en tout cas, chapitre 25 clôt c'est la cerise sur le gâteau, la prostitution, l'idolâtrie. On se dit, décidément, cette génération, il n'y a rien à en faire. La décision qui avait été prise au chapitre 13-14 d'exclure le peuple de la terre promise, elle est manifestement entérinée. Donc à partir du chapitre 26, on bascule à la deuxième génération. Ce sont les 10 derniers chapitres. Je vous avais dit tout à l'heure en introduction qu'effectivement, on part de la première génération, on arrive à la seconde. Et on recommence le dénombrement. Chapitre 26, vous pourrez regarder, c'est parallèle au chapitre 1er. Vous retrouvez la liste des tribus, du nombre par clan, etc. Et le nombre a changé, mais pas beaucoup. Verset 51, 600 à 1730. C'est pas très différent. Et là, on explique, verset 54, la raison de ce dénombrement. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu attribueras un patrimoine plus grand. Voilà. Donc, d'un côté, on sait que la taille du territoire dépend, mais d'un autre côté, l'attribution se fera par tirage au sort. Alors, il y a aussi le renommement des Lévites, etc. Maintenant, il faut recommencer un certain nombre de choses. Il faut s'assurer la question du leadership. C'est là qu'on décide que Josué, vous vous souvenez de Josué et Caleb, eh bien, c'est Josué qui va prendre la succession de Moïse. Chapitre 27, verset 18. Le Seigneur dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Noun, homme en qui il y a du souffle, tu poseras la main sur lui, etc. » Donc, verset 20, « Tu lui donneras de ta dignité, etc. etc. » Bon. Donc, c'est Josué qui va succéder à Moïse. On recommence des règles, chapitre 28, concernant les sacrifices. Les sacrifices quotidiens, du matin, du soir, le jour du sabbat, verset 9. Verset 11, le premier jour du mois. Verset 16, la Pâque, avec les pains sans levain. Verset 26, la fête des semaines, ce qu'on appelle la Pentecôte, les premiers fruits. Chapitre 29, on nous parle du premier jour du septième mois. Et puis le dixième jour du septième, donc c'est Rosh Hashanah, si vous voulez. Le verset 7, le dixième jour de ce septième mois, eh bien, c'est Yom Kippour. Le 15e jour du 7e mois, ben, c'est Soukhot, la fête des huttes, etc., etc. Donc en fait, vous avez une répétition en disant, mais attendez, mais on a déjà eu ça, on a déjà eu droit à ça, pourquoi on répète? Eh bien, parce qu'on s'adresse à la seconde génération. Ils sont nés dans le désert où ils étaient gamins, donc il faut tout leur réexpliquer. Donc on reprend tout ça, et puis finalement, la répétition, c'est pas inutile. Une bonne répétition, donc ça montre l'importance d'obéir scrupuleusement à la parole de Dieu, donc c'est un peu redondant. Alors forcément, pour nous, on trouve que c'est un peu lourd. On se dit, vous voudrez peut-être faire une sorte de synthèse de tout ça, une petite synopse de tout ça, et c'est précisément ce que des livres comme Le Rouleau du Temple, par exemple, à Qumran, dont je prépare l'édition pour la bibliothèque de Qumran, qui paraîtra l'an prochain, Inch'Allah, eh bien, Le Rouleau du Temple va synthétiser tout ça en disant à 3-4 reprises, là il y a tel détail, etc. On essaie d'harmoniser tout ça. Donc là, ce n'est pas le but du jeu. Le but du livre des nombres n'est pas de faire une synthèse, au contraire, c'est de reprendre certaines choses. Voilà. Donc on a de nouveau une loi sur les vœux, chapitre 30. Oui, mais on a déjà eu des lois sur les vœux au chapitre 6. Oui, bon, c'est pas grave. On a de nouveau des guerres, chapitre 31. C'est là notamment qu'on se plaint, parce que justement, ils font la guerre, mais ils tuèrent tous les mâles, verset 7. Mais verset 9, ils emmenèrent captives les femmes des Madianites avec toute leur famille. Et c'est là qu'on leur dit, mais attendez, vous avez pris les femmes captives, il ne fallait surtout pas. Verset 15, vous avez laissé la vie à toutes les femmes, ce sont elles qui, par la parole de Balaam, ont entraîné les Israélites au sacrilège. Donc on leur dit, attention, vous voyez, l'histoire se répète, on répète les textes législatifs, on répète les textes de guerre, mais attention à ne pas répéter les erreurs. Vous voyez la visée rhétorique de cette répétition. À la fin, les derniers chapitres, on arrive et on est prêt à s'installer. Au chapitre 32, on a les tribus qui s'installent à l'est du Jourdain. On va avoir trois tribus, enfin disons deux et demi. On a deux tribus et demi qui vont rester à l'est du Jourdain, qui ne vont pas entrer en terre promise. Alors on se dit, tiens, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est possible, pas possible? Il y en a qui disent, mais pourquoi? Ben oui, mais c'est très bien là, et puis en même temps on a fait la guerre, pourquoi on ne s'installerait pas là? Alors donc c'est Ruben, c'est Gad, et puis on verra un peu plus loin qu'il y a Manassé. Enfin, une partie de la demi-tribu de Manassé qui va s'installer là-bas. Alors, le problème, c'est que d'autres ne sont pas contents en disant, mais attendez, vous nous lâchez, on s'apprête à traverser le Jourdain et à entrer en terre promise, et vous, au lieu de venir avec nous faire la guerre, vous voulez rester là tranquillement. Alors, du coup, ce dont ils conviennent, c'est qu'ils vont les accompagner pour la conquête militaire, mais qu'ensuite, ils rentreront chez eux. Il disait un verset 16, « Nous bâtirons ici, c'est-à-dire en Transjordanie, à l'est du Jourdain, les enclos pour notre petit bétail et des villes pour nos familles, puis nous prendrons aussitôt les armes à la tête des Israélites jusqu'à ce que nous les ayons amenés dans leur lieu. Verset 18, « Nous ne rentrerons pas chez nous tant que les Israélites n'auront pas reçu chacun son patrimoine. » Donc ne vous inquiétez pas, on est solidaires, on va se battre avec vous, on est un seul peuple. Cela dit, ça posera problème. Alors on leur dit, attention, hein, je trouve ça super, c'est marrant, c'est drôle, mais on leur dit « Ok hein, », verset 20, Moïse leur dit « Si vous faites cela, si vous prenez les armes devant le Seigneur pour le combat, blablabla, tant mieux. Mais verset 23, si vous n'agissez pas ainsi, vous aurez péché contre le Seigneur, sachez alors que votre péché vous retrouvera. » Attention, hein, vous y échapperez pas. Et donc finalement, on nous dit, verset 34, on a les fils de Gad, on voit là où ils s'installent, les fils de Ruben, et puis verset 39, les fils de Makir, fils de Manassé. Donc là, la moitié de Manassé qui est lui-même une moitié de tribu. Et en fait, ce sont des problèmes qu'on retrouvera dans le livre de Josué. Vous verrez, il y aura du copier-coller, là encore, avec la même discussion dans le livre de Josué, puisque ça n'est que dans le livre de Josué qu'on va effectivement faire la conquête de la terre promise et répartir les territoires. Et la même question se produira. Et même, on va voir qu'ils vont même bâtir un hôtel. Alors, je dis, attendez, pas question. Alors, bientôt, vous allez faire votre temple dans votre coin, etc. On n'est plus un seul peuple. En même temps, vous avez une grande frontière géographique, le Jourdain. C'est sûr qu'on se dit, c'est mal barré, quoi, s'ils restent dans leur coin, si en plus de ça, ils ont leur propre temple, etc. Donc, on sent qu'il y a des polémiques sur la question d'identité nationale. Est-ce qu'on est restreint à une zone géographique? Est-ce qu'on peut s'étendre au-delà de la zone géographique? Et si oui, qu'est-ce qui va nous unir malgré les frontières géographiques comme le Jourdain ou les montagnes? Et on va se rendre compte dans le livre de Josué que la réponse, ça va être le culte, en fait, la centralisation du culte à Jérusalem notamment. Donc on y reviendra quand on fera le livre de Josué, mais je vous le dis tout de suite, comme ça vous le savez. Alors ensuite au chapitre 33, on a un résumé de toutes les étapes, on a un bilan, voilà toutes les étapes par lesquelles le peuple est passé. Alors c'est un chapitre qui est intéressant au niveau de la géographie historique et du point de vue archéologique, on n'a pas le temps de développer ça ici. Au chapitre 34, on nous redonne les frontières globales de la terre promise, le sud, verset 3, l'ouest, verset 6. Donc au sud, on nous dit finalement, on va jusqu'au désert de Tsin près d'Edom, donc c'est tout le désert jusqu'à la frontière de l'Égypte, si vous voulez. À l'ouest, c'est la grande mer, nous dit-on, verset 6, c'est-à-dire la mer Méditerranée. Et puis à l'est, on nous dit que on va jusqu'à la rive de la mer de Kinneret, donc c'est le lac de Galilée, donc c'est le Jourdain. Vous voyez, c'est ça la frontière. Bon, alors de l'autre côté, donc du coup, de l'autre côté du Jourdain, c'est un peu problématique. Du coup, celles qui sont à l'intérieur dans Canaan, ce sont les autres, les 9 tribus ennemies, nous dit-on au verset 13. Au chapitre 35, on continue avec ces aspects géographiques et d'attribution des territoires. On a les villes attribuées aux Lévites, chapitre 35. Et ça, c'est encore des choses qu'on va retrouver dans le livre de Josué. Les Lévites, on l'a dit tout à l'heure, n'auront pas de territoire en propre, n'est-ce pas ? Il n'y a que 11 tribus qui ont un territoire, qui est compensé par le fait que Éphraïm et Manassé donc, sont deux tribus issues d'une seule qui est celle de Joseph. Donc il y aura bien 12 territoires, mais en fait, 11 fils de Jacob. Le 12e fils de Jacob, Lévi, ce sont donc les Lévites et les prêtres. Eux, ils ont des fonctions sacerdotales, donc ils n'ont pas de territoire en propre. Mais ils ont des villes un peu partout. Donc on va leur donner des villes, on leur donne la liste des villes. Ils ont 42 villes, ils ont 48 villes au total, 42 villes normales et 6 villes qui sont également des villes de refuge où ceux qui sont accusés de meurtre peuvent venir se réfugier en attendant qu'on leur fasse un procès. Ça leur évite d'être massacrés sur le champ. Ils peuvent avoir le temps de dire « mais non, je suis innocent ». Donc on vous donne la liste. Ça, c'est pareil, c'est ce que vous retrouverez dans le livre de Josué. Tout ça, c'est du copier-coller dans le livre de Josué. Donc les villes des Lévites, les villes de refuge. Et puis, quelques petites législations au chapitre 36, et puis ça s'arrête là. Verset 13, « Tels sont les commandements et les règles que le Seigneur donna aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse dans les plaines arides de Moab, près du Jourdain, en face de Jéricho. » On est en face du Jourdain, on est en face de Jéricho, près du Jourdain, on est prêt à rentrer en terre promise, et finalement, on est prêt. La deuxième génération est là, on a fait le dénombrement, on a réfléchi à qui aller où, comment aller s'organiser pour la guerre, etc. Et on est prêt à y aller. Et c'est ainsi que s'achève le livre des Nombres. Alors, le Pentateuque pourrait s'arrêter là. Une fois qu'on a fini ça, on dit, allons-y, attaquons. On est prêt à aller avec le livre de Josué. Mais il va y avoir, entre les deux, le livre du Deutéronome. Et on discutera davantage, la prochaine fois, peut-être si on a le temps, de la question de la rédaction du Deutéronome par rapport aux autres livres. Parce que d'un côté, les 4 premiers livres du Pentateuque semblent former un tout cohérent. Le Deutéronome va reprendre un certain nombre de choses et on se dit « Ah, mais on n'a pas besoin du Deutéronome ». En même temps, on va se rendre compte que la rédaction du Deutéronome, on la retrouve dans le livre de Josué et les livres suivants. Donc, on va se rendre compte que d'un côté, il y avait peut-être Exode, Lévitique, Nombre d'une part, Deutéronome d'autre part, qui peut-être étaient côte à côte et que finalement, tout ça, ça a été rassemblé pour former le Pentateuque. Toujours est-il qu'au final, le livre des Nombres, il se retrouve un peu comme ça, pris en sandwich, avec ce côté un petit peu décevant, un peu déprimant de cette génération dans le désert qui n'en fait qu'à sa tête, qui n'arrête pas de se plaindre, qui finalement est rejetée. Et on a quand même la nouvelle génération dont on espère qu'elle sera meilleure que la précédente. Mais clairement, vous pouvez pas lire le livre des Nombres tout seul et vous arrêter là en disant « ça y est, j'ai fini ma lecture, je suis content ». Ça n'est pas un livre autonome à part entière, il n'a de sens que dans le cadre, disons, du Pentateuque. Voilà. Alors, je m'arrête là. Si vous avez une ou deux questions, on peut éventuellement les faire, mais il va falloir laisser la place pour